Lizzie présente Un amour infaillible de Anne Bérague II. Traduit du norvégien par Hélène Hervieux, lu par Ludmila Ruoso. Rappel des événements précédents et des personnages. La ferme n'échauffe. Elle est située près de Trondheim, au bord d'un fjord où l'on peut se baigner en été. On y accède par une large allée bordée de magnifiques érables, symbole de la prospérité passée de la famille Neschoff. L'ensemble est composé de trois grands bâtiments principaux, une longue bâtisse traditionnelle qui constitue l'habitation principale, une grange où le stock de cercueils de Margido a remplacé depuis longtemps les montagnes de paille et enfin une étable transformée en porcherie, aujourd'hui abandonnée. Les terres qui l'entourent sont désormais exploitées en fermage. Le tout appartient à Torun par héritage, cette dernière étant l'unique enfant de Thor, le propriétaire précédent. Talak Neschoff, le grand-père. Digne représentant de la prospère paysannerie norvégienne, il est une force de la nature et doté d'un extraordinaire charisme. De son vivant, la ferme produisait en abondance du lait, du blé, des fraises. Héritier de la ferme Neschoff à la mort de son père, Talak était marié et père d'un fils, Thormod, censé lui succéder selon une tradition immémoriale. Tout semble écrit et pourtant, Talak Neschoff est à l'origine d'un terrible secret de famille qui n'est révélé que longtemps après sa mort. Anna Neschoff, jeune fille de ferme devenue la maîtresse de Talak. Elle épouse Thormod, le fils de celui-ci, et donne naissance à trois garçons dont l'aîné, Thor, assure la continuité de l'exploitation après la mort de son grand-père. Femme au caractère bien trempé, elle dirige la ferme et éduque ses enfants d'une main de fer, sans jamais compter sur son mari, confiné à sa chambre et à la cuisine. Pourtant, lorsque Anna quitte ce monde, sa famille est éclatée. Ses fils ne se voient plus et elle a à peine entrevu sa petite-fille. À son enterrement, ces derniers se trouvent réunis pour la première fois depuis près de 20 ans. C'est aussi ce même jour que le terrible secret de la famille Neschoff est dévoilé à ses membres. Thormod Neschoff, fils de Talak, il est contraint de consentir à un mariage de raison avec Anna, la maîtresse de son père. De leur union naissent trois enfants, Thor, Margido et Erlend. Méprisé, étouffé et dominé par son épouse à cause de son inavouable homosexualité, Thormod reste prisonnier de son mariage toute sa vie et se mure dans le silence, cloîtré à Neschoff. Replié dans le souvenir du jeune soldat allemand dont il était amoureux pendant l'occupation et dont il garde pieusement une photographie usée par le temps, il ne s'évade que dans la lecture d'ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. À la suite de la mort d'Anna, puis de Thor, il quitte à 80 ans la ferme pour une maison de retraite, où il retrouve enfin la paix, la dignité et le goût de vivre. Thor Neschoff, fils aîné de Thormod et d'Anna. Il est l'héritier et à ce titre s'occupe de l'exploitation agricole. Telle est sa charge, son destin. Sur l'injonction de sa mère, il a abandonné l'élevage bovin au profit de l'élevage porcin et s'est découvert une véritable passion pour cet animal carnassier, mais intelligent et affectueux. Il ne vit que par et pour ses porcs. Thor a été brièvement marié. De cette union est née une fille, Torun, qu'il connaît à peine. C'est seulement à la mort de sa grand-mère Anna que Torun revient à Neschoff. Le père et la fille se rapprochent alors autour de leur amour commun de la race porcine, à tel point que Thor se prend à rêver qu'elle assure la relève. Lorsqu'il comprend qu'il s'est illusionné, il met fin à ses jours auprès de Ciri, sa truie favorite, lui offrant par là même un délicieux repas d'adieu. Margido Neschoff, frère cadet de Thor. Margido possède une prospère entreprise de pompes funèbres. Enfant solitaire, méticuleux, taciturne et traumatisé par sa mère, il a très vite trouvé un grand réconfort dans la religion et il tente de vivre sa foi au quotidien auprès des personnes éplorées qui constituent sa clientèle. Intimidé et dérouté par le sexe féminin, il demeure puceau et ne trouve de réconfort et de sérénité que dans le sauna individuel qu'il a fait installer dans sa salle de bain ou lové dans son large fauteuil stressless. Malgré sa difficulté à communiquer avec autrui, il reste debout dans l'adversité qui frappe sa famille et maintient le contact entre ses membres. Erlend Neschoff, le Benjamin des trois frères Neschoff. Après une enfance heureuse illuminée par la personnalité de son grand-père Talak, Erlend est mis au ban de sa famille et de son milieu lorsqu'à l'adolescence s'affirme son homosexualité. Il quitte alors la Norvège pour s'exiler au Danemark et coupe les ponts avec ses proches. Doté d'un sens artistique hors du commun, il s'est imposé comme une star de la décoration d'intérieur et a fait fortune dans l'étalagisme de luxe. Capricieux, hypersensible et génial, il trouve son équilibre dans sa relation avec Kremeux. Tous deux filent le parfait amour depuis plus de 15 ans. Surnommé « Petit Mulot » par son Kremeux rondouillard et adoré, il nourrit une passion dévorante pour les figurines miniatures Swarovski et le champagne Bollinger bien frappé. C'est l'enterrement de sa mère qui le convainc de revenir à Neschoff, où il retrouve ses frères, son père, découvre une nièce et apprend un lourd secret de famille. Torunn Neschoff, fille de Thor et nièce de Margido et d'Erlend. Élevée par sa mère et son beau-père à Oslo, elle a été soigneusement tenue éloignée de sa famille paternelle et de Neschoff. Travailleuse, ambitieuse, elle s'est affirmée comme une spécialiste du comportement des chiens et de leur dressage. C'est en venant au chevet de sa grand-mère mourante qu'elle découvre ses oncles et retrouve son père. Elle décide alors de rester à Neschoff afin d'aider à l'élevage des porcs pour lesquels elle se découvre un véritable goût. Mais la vie dans cette ferme retranchée du monde lui devient progressivement insupportable et elle quitte les lieux, laissant son père en plan. Après le suicide de celui-ci et une longue dépression, elle refait sa vie avec le beau et volage Christer, un trader passionné de courses de chiens de traîneau. Kremeux, miette de pain en danois, surnom affectueux donné à Carl Thompson par son compagnon Erlend. Issu de la grande bourgeoisie danoise, Kremeux est le prestigieux et prospère rédacteur en chef d'un quotidien important de Copenhague. Il partage fidèlement sa vie depuis bientôt 15 ans avec Erlend, son grand amour. C'est après avoir été renversé par une voiture que Kremeux a ressenti le besoin impérieux d'avoir une descendance et de partager ce bonheur avec Erlend. Au moment où la musique commença à résonner dans la pièce, Margido releva la tête et son regard s'échappa vers la fenêtre de son bureau. La mélodie et le texte étaient d'une telle beauté que cela le prit tout à fait au dépourvu. Un long moment, pendant qu'il relisait le programme du déroulement des obsèques et vérifiait une troisième fois les dates, au cas où il aurait laissé passer une erreur, il n'avait prêté qu'une oreille distraite à ce que disaient de jeunes hommes dans un studio de radio en parlant tous en même temps de la manière dont ils avaient travaillé pour sortir leur premier album. En dehors de la nef de l'église ou de la salle de cérémonie, la musique n'occupait pas une grande place dans sa vie. Il n'avait même pas de chanifi chez lui. Mais la radio était souvent allumée avec le son assez bas quand il était seul au bureau. Il adorait les beaux psaumes et il était presque toujours ému par la musique que les proches choisissaient pour les funérailles. Il y était question de perte, de chagrin, de la vie telle qu'elle avait été vécue jusqu'à l'instant où la mort avait pris le relais. Il fut frappé par la pensée qu'il n'y avait pas au fond une énorme distance entre la grande beauté et le chagrin. Car la musique qu'il écoutait maintenant, alors qu'il s'était attendu à de la musique de jeune qui cassait les oreilles, était d'une beauté indicible, et elle lui procura une grande joie parce qu'il était joyeux au départ. Tandis qu'il y avait peut-être une autre personne quelque part qui écoutait la même musique, une personne plongée dans une si grande douleur que la mélodie et les mots étaient trop difficiles à supporter. Il pouvait rester ici à regarder par la fenêtre et s'adresser un petit sourire de connivence, cependant que l'autre personne voyait sa plaie se rouvrir en grand et était malheureusement obligée d'éteindre la radio pour ne pas en entendre davantage. Étrange, pensa-t-il, à l'image de la vie elle-même, tout aussi imprévisible. L'imprévisible était son quotidien.